Bokeh Rabbeshem Hashem Naase Venatzliach pour ce shiur sur une idée à retenir de la paracha de Bo extraordinaire pour nous tous, surtout dans notre génération Be'ezrat Hashem Yitbarach, en ce jeudi 6 du mois de janvier et déjà Dalet du mois de Shvat Lechem Tovim Shalom, shiur acheté par Gabriel Aben Danan, Hashem Verechoto Bechol Asher Lo Be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de son oncle. Shlomo ben Chana, Etzion aben Danan, Alem Hashalom, Roi Hashem Tenachenam, Began Eden Elion, Vechol Shorvim, Imam, Bichlal, Arachami, Vasilechot Vechen, Yehir, Atzon El Maramen, Tien Nishmatam, Tzor Haim, et que le mérite de cette étude, Yalet Nishmatam, Kezor Arakia, Be'ezrat Hashem Yitbarach, en même temps une très grande réussite pour vous tous. Refouach Lema, l'école Chol Israël, on a déjà donné la liste, les Nishmat Kol Mete Israël, on rajoutera à Georges Mete Nimcha Alice pour ces 12 mois ce soir, et on commence tout de suite ce chiour très très intéressant. Est tellement d'actualité avec nous à propos d'un verset qui nous dit « Ulchol ben Israël lo yeheratz kelev leshono ». Alors je m'explique pour traverser plusieurs dimensions de ce verset-là qui dit que les chiens d'Égypte n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte. Au niveau du pshat, vous savez que les ennemis d'Israël ont souvent utilisé cet animal qui est considéré aussi impur que le porc, c'est le chien. C'est pour ça que les Juifs n'ont pas à rentrer de chien à la maison, n'ont pas en général à posséder de chien. Et l'Halakha dit que si on possède un chien, pour X raison, il doit être attaché dehors, dans une niche, pour ne pas que l'animal souffre et qu'on lui doit lui donner à manger et à boire et ainsi de suite. Veiller vraiment à son bien-être, à un tel point qu'on doit faire attention aux animaux que l'on possède, que Alpi Halakha est strictement interdit d'abandonner un animal sur la route, qui est le sien, pour Mishum, Tsar, Balechaim, parce qu'on n'a pas le droit de faire souffrir un animal. De l'autre côté, c'est vrai qu'on doit veiller sur les animaux, qu'on en a la responsabilité, qu'on doit les nourrir avant de se nourrir nous-mêmes, dit la halakha, sauf s'il s'agit de boissons, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a le droit de les laisser rentrer à la maison ou autre, puisque le chien, le pidin, est un animal impur, et on n'a pas le droit de le laisser pénétrer à la maison dans l'absolu. Maintenant, si quelqu'un le fait, il le fait, c'est pas là qu'est la question. Mais quoi qu'il advienne, Mishir et Shamaim ne rentrent pas un chien dans la maison, on le laisse sur Mirpesset, on le laisse à droite et à gauche, et comme le dit le Baal Pele Yoet, le problème des chiens, c'est qu'ils empêchent les pauvres de demander la tzedaka, car ils ont peur de ces animaux qui peuvent être chutzpanim et agressifs. Comme vous savez, ils peuvent aboyer, ils peuvent même mordre, et ainsi de suite, même s'ils sont bien dressés, malgré tout. Alors, qu'est-ce que la Torah a-t-elle à nous raconter que les chiens n'ont pas aboyé en Égypte? Franchement, c'est très curieux de voir que dans une situation aussi importante que la sortie d'Égypte, la Torah donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mots. 7 mots pour dire que les chiens n'ont pas aboyé. C'est énorme dans une Torah éternelle que la Torah nous dise « Tu sais quoi, en fait, je vais dire une chose qui est très importante à retenir. Quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, eh bien, les chiens n'ont pas aboyé. On a envie de dire « Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? En quoi, moi, ça m'apporte quelque chose ? En quoi, moi, j'ai besoin de faire quoi que ce soit avec ?» Alors, vous savez que les ennemis d'Israël, quand on parle, par exemple, de la Shoah, beaucoup de témoignages ont rapporté que les SS, les Marchemam et Zichram, dressaient leurs chiens et faisaient énormément peur aux enfants d'Israël avec leurs chiens. Ils faisaient même dans le camp de Sobibor, des diapositives ont été prises que les Allemands jouaient avec la vie des enfants juifs tout petits, les faisaient courir et lâchaient leurs chiens, les dévoraient sous les yeux des parents. Les Marchemam et Zichram. Et l'une des raisons pour lesquelles on disait, mais pourquoi est-ce que les Hébreux, pourquoi est-ce que les Juifs ne se sont pas rebellés pendant la Shoah? Ils avaient 100 gardiens pour plus de 1000 Juifs. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas battu? Eh bien, parce que les SS avaient instauré la peur du chien dans le cœur des Juifs. Et donc, cette pratique a été mise aussi avec les peuples de couleur noire, où vous irez aux Antilles, par exemple, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit la Martinique et autres. Eh bien, vous verrez là-bas quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Les chiens sont souvent attachés sur un piquet en plein milieu des champs. J'ai posé la question quand j'étais en Guadeloupe, pourquoi ils font ça? Eh bien, ils m'ont répété parce que, ils m'ont raconté donc les indigènes de là-bas, parce que pendant l'esclavage des 400 ans à peu près de ce qu'ont subi les personnes de couleur, eh bien, quand un esclave se sauvait, ils envoyaient les chiens qui les mordaient. On voit aussi que la police, jusqu'à aujourd'hui, utilise ce système. Quand il y a une personne dangereuse ou hostile ou un brigand ou peu importe, on lâche les chiens sur lui. Non seulement ils savent retrouver par leur flair, mais ils savent aussi attaquer de façon assez violente. Et donc, qu'est-ce que font les gens de ces îles-là? Ils attachent les chiens pour se venger justement du fait que leurs aïeux, eh bien, chaque fois qu'ils essayaient de se rebeller ou de fuir l'esclavage, ils étaient constamment rattrapés et déchiquetés par les chiens. Sur ce, ils se vengent, ils les mettent sur des piquets sous le soleil, comme ça ils m'ont raconté. Est-ce que c'est vrai ou faux? J'en sais rien. Même si de l'autre côté, il y a beaucoup de cruauté qui est faite contre ces animaux en Chine et dans les pays asiatiques, où ils sont très maltraités souvent, et même dévorés, mis vivants dans des chemichements, dans des marmites brûlantes, des choses incroyables. Chose qui est strictement interdite. La pêche au requin aussi, ce qui est strictement interdit de faire ce genre de choses. On n'a pas le droit dans la Torah de faire souffrir un animal, que ce soit un chien, que ce soit un animal pur ou impur. On rendra des comptes sur cela, et pire encore, selon certains, comme le Ben Ishraï, comme le Harizal, eh bien, on va même le lire ici, même s'il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. La Torah est remplie de marloquettes. On peut se réincarner dans l'animal qu'on a fait souffrir pour soi-même subir le sort qu'on a fait subir. Voilà. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent pas comme ça. Peu importe. Il y en a qui disent qu'on ne se réincarne pas dans les animaux, il y en a qui disent que oui. Le Harizal dit que oui, le Ben Ishraï dit que oui, le Rav Menaché dit que oui. Beaucoup, beaucoup disent que oui. Top, l'homme échelé. Vélachen. Ce verset-là vient nous dire qu'effectivement, les Égyptiens possédaient des chiens, et que ces chiens, à chaque fois qu'un Hébreu essayait de s'enfuir, ils lâchaient. Ces chiens qui aboyaient. Dès que quelqu'un fuyait, les chiens aboyaient, ce qui prévenait comme une sonnette d'alarme les Égyptiens qui couraient rattraper l'Hébreu qui s'était enfui. Ça, c'est le pshat pour Kitta Aleph. On augmente le niveau. Et de quel chien est-ce qu'on parle en Égypte? On parle des démons qui ont effectivement des gueules de chien. Les démons ont comme le dit le roi David, Kelev, mais ça, comme on dit là-bas, le chien qui tourne autour de mon Kever, il fait allusion aux démons. Et c'est pour ça d'ailleurs que les chiens sont des animaux très sensibles aux esprits maléfiques. Ils les voient, ils aboient, on se demande qu'est-ce qu'ils regardent à droite et à gauche, car il y a un lien commun entre les deux, même si le chien est certainement l'animal le plus proche de l'homme et qu'il a une fidélité exceptionnelle. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs en hébreu Kelev, qui veut dire Kelev, comme le cœur. Il est proche du cœur de l'homme, il reste fidèle, c'est un animal très attachant. J'en ai eu plusieurs quand j'étais jeune. J'étais même pas dresseur de chien, en tout cas, si, je l'ai dressé un petit peu aussi pour 10 francs à l'époque de l'heure. Je les sortais, enfin, je suis très attaché à cet animal, moi personnellement, mais j'en possède pas parce que la Torah me le demande. Sinon, c'est très agréable, et de l'autre côté, c'est un esclavage de passer son temps à les sortir, les ramener. Local. On dépense beaucoup d'argent pour les chiens alors qu'il y a des familles juives qui n'ont pas de quoi faire Shabbat. C'est une réflexion qu'on doit tous avoir. Quoi qu'il advienne, ce que nous devons retenir, c'est que les chiens dont on parle au niveau un peu plus avancé de l'étude, ce sont les démons. Les démons qui gardaient les frontières de l'Égypte, Vélo, Yahirat, Kelev et Shono, et les démons se sont tus quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte. Ils n'ont pas aboyé, ils n'ont pas mis en application leur peur qu'ils imposaient sur les Hébreux qui étaient vraiment choqués de voir des démons qui se concrétisaient devant eux et qui les menaçaient de ne pas sortir du pays d'Égypte grâce aux incantations des sorciers égyptiens qui avaient créé cette barrière autour de l'Égypte. Donc on parle en réalité des démons. Ces reproductions démoniaques ont été d'ailleurs retrouvées dans des hiéroglyphes dans l'Égypte antique où on voit des hommes avec des corps d'hommes avec une tête de chien. Vous les voyez comme ça, d'ailleurs, ils sont sur le profil. Et ces reproductions ne sont pas inventées de l'imagination des Égyptiens, c'était des reproductions réelles que témoignaient les indigènes de cette époque et les Hébreux en disant waouh, c'est des hommes chiens, qu'on appelle d'ailleurs des loups-garous, si vous voulez. Dans la Torah, ça existe. Il y a même un livre de Kabbalah derrière moi qui dit comment se débarrasser des loups-garous quand ils rentrent dans la ville, avec les mots qu'il faut dire, les prières qu'il faut dire. Ça existe, c'est pas des inventions stam, dont un loup-garou qui est très connu dans la Torah, selon nos commentateurs, qui s'appelait Binyamin. Binyamin est appelé justement le loup. Pourquoi on l'appelait le loup? Parce qu'il, quand il se sentait agressé, se transformait en loup-garou selon nos Chachamim, comme c'est marqué dans le livre Otsa Plaot HaTorah. C'est marqué juste ici dans mon livre que Binyamin se transformait en loup-garou, à ce qui paraît. Mishirir, et en tout cas, c'est ce que nous disent nos sages. Et la Torah, c'est de quoi elle parle. Oufren. Maintenant, on va essayer de rentrer dans une explication qui est devant moi et qui va nous parler des vrais chiens d'Égypte, dont la Torah, dans le secret des secrets, veut nous parler. Qui en réalité ont formé la barrière qui a imposé l'esclavage en Égypte, et pire encore, le fait de ne pas pouvoir se sauver d'Égypte. Qui sont ces chiens dont on parle? Écoutez bien. La Torah Mesaperet lanou basé. La Torah nous raconte en cela. Qu'Ibné Israël tiknou et achet. Que quand la Torah vient nous dire que les chiens n'ont pas aboyé, elle parle de la langue des Hébreux, qui passaient leur temps à faire du lachonara, les uns sur les autres. Et étant donné qu'en Égypte, ils ne cessaient de dire du Lachonera les uns sur les autres, ils ont créé une barrière qui n'a pas pu les sortir de leur mazal, de leur libération. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Chaque fois qu'on créait du Lachonera, donc même, quitte à dire des vérités sur son voisin juif, eh bien nous créons des démons qui nous empêchaient la sortie du pays d'Égypte, au point même que 80% n'ont pas pu sortir à cause de leur lachonara. Et nos sages nous disent, où est-ce que c'est marqué Memphorash, Asher Ra'abaim Moshe Rabbeinu Be'omro? C'est ce qu'on voit dans la paracha de Shemot quand Moshe a dit, Achen Noda Adavar. Maintenant, nous avons compris pourquoi. Achen Noda Adavar, maintenant nous savons pourquoi les Hébreux n'ont pas pu sortir du pays d'Égypte. Maintenant, nous comprenons pourquoi même les 80 000 de la tribu d'Éphraïm qui sont partis avant l'heure, avant que ne vienne Moshe Rabbeinu vers Eretz Israël, ont été décimés par les Cananéens. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas fait Teshuvah sur le Lachon Hara. Ils perpétuaient constamment de faire du Moti Shemra sur les uns et les autres, et le rapporter, et de dire des choses. Vous ne pouvez pas savoir combien de dégâts. Combien de dégâts Hashem Yishmor V'Yirachem provoque le Lachon Hara et le Moti Shemra. J'aimerais vous raconter une anecdote qui s'est passée dans ce bureau, il n'y a pas tellement longtemps. Un couple, écoutez bien, regardez comment les choses sont graves et combien la gravité de recevoir du Moti Shemra ou du Lashon Hara peut entraîner des catastrophes impressionnantes. Je reçois un couple dans ce bureau. L'homme et la femme me demandent de me parler d'abord en privé. Je prends l'homme et ensuite je prends la femme, j'écoute leur son de cloche, je les ramène ici et leur donne une thérapie à mettre en pratique, leur donnant rendez-vous dans 3 semaines plus tard, espérant, Bezrat Hashem, que il s'accorde dans le Shlom Bayit. Quand l'homme était dans mon bureau, je lui ai dit que s'il ne s'arrangeait pas dans ses midot, s'il ne changeait pas son comportement, Bassof, il allait beaucoup souffrir dans son histoire de couple. Voilà ce que je dis au mari. Une fois rentré à la maison, le mari se prend la tête avec sa femme et il lui dit « De toute façon, comme a dit le Rav Tutu, je vais beaucoup souffrir dans mon couple. » Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que tu allais souffrir dans ton couple. J'ai dit que si tu ne t'arrangeais pas, tu allais souffrir dans ton couple. Parce que tu dois t'arranger. La femme reçoit ce Motsi Shemra qui n'est pas Nachon, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Elle le reçoit. Donc, elle se fâche contre le Rav Tuitou. J'ai 2 choses à vous dire. Écoutez bien. La première, d'abord, règle de la vie. Quand on vient voir un Rav, et que ce qu'il nous dit ne correspond pas à ce qu'on attendait comme réponse, ou que ce qu'il nous dit va à l'encontre de notre logique. Quand on vient voir un rave, le rave, il ne dit pas ce qu'il pense. Le rave, il a en lui de l'étude, c'est-à-dire il voit par rapport à la halakha, par rapport à la Torah. Et très souvent, l'objectivité des gens qui vivent en dehors de la Torah ou sans connaissance de la Torah ont leur logique qui est anti-Torah. Donc, je vous demande à tous, que ce soit chez moi ou chez n'importe quel rabbanim, quand vous allez voir un rave, s'il vous plaît, on ne discute pas ce que dit le rave. Sinon, ne va pas le voir. Le rave, il n'est pas là pour te plaire. Il n'est pas là pour aller dans le sens du poil. Il n'est pas là pour tes dons. Il n'est pas là pour ça. Le rave, il vient et te dit, par objectivité, parce que son patron, c'est Dieu. Il travaille pour la Torah. Donc moi, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le fait d'en parler, mais juste que vous retourniez à vie. Tu vas voir un rave. Le rave, il te dit non, assour. Ou il va te dire, non, madame, vous avez tort, monsieur, vous avez tort. Ouais, comment tu peux dire que j'ai tort? Mais alors, viens pas me voir. Tu me fais perdre du temps. Tu t'en fais perdre. Tu vas faire du Moshi Shemra, du Lashon Hara. Passe ton chemin, va chez un thérapeute, chinoni, vis ta vie. Matarotsimitanu. C'est combien de fois j'entends ça des raves de communauté, combien ils souffrent de ce lachonara. Vous allez voir un rave, vous lui posez une question. Pire encore, regardez combien les choses peuvent provoquer des dégâts au niveau de la Géoula. Ok? Tu vas voir un rave, tu lui poses une question. Ok? Attends, la question que tu vas lui poser va aller dans une direction qui ne va pas dans ton sens. Tu vas répéter à l'autre ce que le rav a dit. Tout de suite, tu es condamné. Vous savez qu'Alpi al-Khaza assour. Par exemple, cette épouse, dont le mari aurait dit, de toute façon, le rav a dit que j'allais beaucoup souffrir. Ce qu'elle aurait dû faire, Alpi al-Khaza, c'est donner un coup de téléphone et d'appeler. Voilà, rav, on est sorti du rendez-vous. Mon mari a dit que vous auriez dit ça. Vous pourriez m'expliquer dans quel contexte? Ça, ce sont des gens intelligents. Et malheureusement, on vit dans un monde de colère, un monde tellement anxieux, tellement mal de vivre, que tout de suite, tout le monde est condamné. Vérifie. Vérifiez. Je l'ai dit et je le redis. Moshe Rabbeinu Alav Shalom est un homme choisi par Dieu. Un homme pur. Un homme intègre. Un homme qui, aux yeux de tout le monde, a reçu la Torah. Comme c'est marqué à la fin de la paracha de Yitro. Ils ont tous vu que Moshe a reçu la Torah de Dieu. Vous vous rendez compte qu'après tous les miracles d'Égypte, après avoir vu Moshe Rabbeinu recevoir la Torah, Korach, au nom soi-disant de la morale et de la Torah, a réussi à persuader 250 rabbanim que Moshe était un rachat, que Moshe était un homme à femme, que Moshe était un imposteur, que Moshe était un homme qui avait volé l'argent des contribuables. Comme ça dit la Gemara. Regardez comme il est gros, d'où il est gros. D'où est-ce qu'il a autant de quoi manger, si ce n'est pas avec votre argent que vous avez donné pour le Beth Amikdash? Vous allez me croire que le peuple a cru? Il aura fallu la mort de 250 personnes à cause de leur sale langue pour que les choses s'arrêtent. La question qu'on doit se poser, c'est comment on peut arriver si facilement à descendre aussi bas? Comment? Moi, je peux vous affirmer, quand on vient me dire quelque chose, et c'est déjà arrivé, quelqu'un dit quelque chose sur toi, vous savez ce que je fais? Au lieu de le condamner, ou de dire c'est un idiot, tu peux me donner son numéro, je voudrais l'appeler. C'est cachère. Tevarer. Tevarer. La deuxième chose à retenir, chers amis, quand on a quelque chose à faire, on doit toujours écouter les deux sons de cloche. Je fais une parenthèse très importante de l'étude. Et je vous demande de tout mon cœur de partager ce siour particulièrement. Partagez ce chiour. Parce qu'on est à cause de ça tous dans la galère aujourd'hui. Vous appelez un rave. Vous lui dites, voilà, il se passe ça et ça et ça. Selon l'alaha, qu'est-ce qu'on fait? Le rave répond par rapport à ce son de cloche. Il ne vient pas écouter les deux sons de cloche. Ce n'est pas une question d'écouter si c'est la vérité ou pas la vérité. Lui, on lui pose une question. Le lait, la viande, combien de temps on attend? 6 heures. Et pourquoi vous n'écoutez pas l'autre son de cloche? Ce n'était pas vraiment de la viande, c'était du végétal. Le rabbi va te répondre, mais on ne m'a pas posé la question si je mange des saucisses végétales, combien de temps j'attends? On m'a dit si j'ai mangé de la viande. Ce qui se passe, c'est que des fois, on appelle des rabbinim, on leur pose des questions. Le rabbi répond par rapport à la question qui a été posée à l'pi alaha. Et t'as des abrutis de l'autre côté qui te disent, je comprends pas comment il a pu te répondre ça, il aurait dû m'appeler pour avoir le deuxième son de cloche. Mais il n'y a pas de son de cloche, on pose une question. On pose une question. Par exemple, un mari qui frappe sa femme. Alpi alacha, qu'est-ce qu'il est? On va dire qu'il est karet. C'est bien. Pourquoi vous avez répondu que j'étais karet? J'ai jamais frappé ma femme, fallait m'appeler avant. Mais monsieur, je suis pas en train de faire un shalom bayit, je suis pas en train de venir juger une situation. On est en train de dire, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le statut? Quelle est la halakha par rapport à une chose? La question qui est posée correspond à cela. Sur ce, on peut tromper le monde avec ce genre de situation. Imaginez qu'il y a un conflit. Imaginez qu'il y a un conflit. Qu'est-ce que je fais moi? Je vais appeler un rav. Et je vais lui donner par contre mon son de cloche pour un conflit. Il n'a rien à voir avec une question qui demande une halakha. Et je vais raconter exactement comment moi je vois les choses. Alors le rav va dire, oulala, faut vous éloigner de lui. C'est un homme dangereux, selon ce que vous me dites. Et avec ça, imaginez que j'arrive et je dis à tout le monde, oh là là, vous savez pas, j'ai appelé un rav, vous savez ce qu'il a dit, il est très dangereux. Il faut s'éloigner de lui. Mais le rav, il a répondu par rapport à ce que toi tu as dit. Mais est-ce que ce que toi tu as dit, c'est la vérité? Vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui? Il y a même quelqu'un qui m'a dit un jour, j'ai appelé un grand rav, il m'a dit. Je lui ai dit, mais t'as dit quoi, ce grand rav? D'abord, c'est faux en plus. C'est pas un grand rav, le méchané. Pas là pour juger. C'est ce que toi, tu lui as dit, c'est ton son cloche. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est réellement cela? Et sur ça, on détruit des mondes, des amitiés, des sincérités qui s'effondrent. Lama. Parce qu'on vient apporter la réponse à la question que nous, on a posée. Mais est-ce que l'autre était là, pour lequel on parle de lui? Non. Voilà pourquoi on est resté en Égypte. Et voilà pourquoi les gens subissent des malheurs aujourd'hui. Ça s'appelle être un chien de la bouche. On appelle ça une bouche, on appelle ça une gueule. Ce qui provoque de la haine, pire de l'indifférence, pire du moti shemra. Haine kapara olamit la dabarazé. Quand par contre tu viens pour poser une question qui n'est pas le pi alaha, quand tu veux régler un problème, les deux sons de cloche sont obligatoires. Quand tu dis que tu as été voir un dayan, un rav, peu importe lequel, pour lequel tu viens dire « Oui, je suis parti me renseigner, hein. D'ailleurs je lui ai exposé tout le problème. » Mais qui t'a dit que ta façon d'exposer le problème est vraie? Vous savez combien on vit dans un monde de manipulateurs? Les gens sont complètement asphyxiés d'esprit. Ils racontent ce qu'ils veulent. Donc ils auront la réponse à ce qu'ils ont posé comme question selon le scénario qu'ils ont présenté. Mais est-ce que le scénario, il est vrai? Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non. On va retenir ce qu'on veut retenir, raconter ce qu'on va raconter avec nos douleurs, sans en réalité tenir compte. Et c'est pour ça qu'on fait un bed-in. Parce que devant les Dayanim, eux, eh bien, ils disent, attendez, vous avez dit ça et ça, mais ça s'est passé où? Quand? Vous savez combien de fois c'est arrivé ce genre de choses? Pourquoi tu n'avais pas dit ça un jour? Non, non, on ne parle pas d'un jour, on parle de maintenant. Tu as dit que tel jour il a dit ça, que tel jour il a fait ça. Et tout ça, véhiculé par la colère, la haine, le mal de vivre, les pathologies, la bêtise humaine, ou pire encore, le mal. Les 80% qui sont restés en Égypte étaient des Réchaïm, disent Chachamim. C'est-à-dire qu'ils n'étaient que raffolants du mal à écouter. Dis-moi du mal. Ah, celui-là, il a fait ça. Quel kiff. T'as vu ce qu'il y avait? T'as pas de compassion, t'as pas de peine. Vous vous rendez compte aujourd'hui, je vous le dis, je vous le répète, parce que c'est le problème essentiel de notre génération. En une seconde, tu peux pourrir la carrière d'une personne. En une seconde, tu peux rendre un rachat tzadik et un tzadik rachat. Avec vous ne savez pas qui il est, vous ne savez pas qui vous avez affaire, vous ne savez pas à qui tu as affaire et à qui tu parles. Bonichev, bonirel, matamedaber. Combien de fois j'entends ça autour de moi? Une fois, quelqu'un me voit et me dit « Tuto, méfiez-vous de lui, vous ne savez pas qui il est. » Je lui dis « Qui il est pour que je me méfie ?» Un jour, j'étais associé avec lui. D'abord, c'est personnel. Donc d'abord, c'est personnel. À part toi, il y a d'autres personnes qui se sont plaintes de lui. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je voulais vous dire qu'avec moi... Et qui te dit que c'est pas toi qui as été malhonnête? Il m'a dit « De toute façon, avec vous, il n'y a rien qui passe. » Je lui dis « Non, je ne reçois pas ton motzi shemra. » Me méfier de lui, je me méfie de tout le monde. Chabdeu vechajdeu. Mais de dire de lui, méfiez-vous de lui, vous ne savez pas qui il est? Et qui il est? Et toi, qui tu es? Peut-être qu'il a eu raison. Alpi alacha, peut-être qu'il n'a pas eu raison. J'en sais rien. Mais tant qu'en tout cas, il ne sera pas... Tu veux une confrontation avec lui? Je lui ai dit. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ah non, non, pas du tout. Pourquoi tu ne veux pas une confrontation? Si tu es capable de sortir un tel venin, c'est que tu sais ce que tu dis. Je vous invite à mon bureau. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ouais, pas du tout, de toute façon, laissez tomber, ça sert à rien. Je vais dire à Tarasha Gadol, tu viens de dire au monde et à tous ceux qui le croisent, vous ne savez pas qui il est? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire? Mais sur quoi tu te bases? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, chers amis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. C'est le Chafetz Chaim. Aucun Yom Kippour, aucune Teshuvah ne peut réparer ça. En Kapara Olamit, dit le Shulchan Aruch, pardon, l'Agmara. En kapara olamit. Quand tu viens et que tu préviens quelqu'un, il faut avoir l'autorisation d'un beddin pour le faire. Avec le beddin, tu peux le faire. Un chacham peut le faire. Mais le chacham, il le connaît. Le chacham, il a eu des preuves. Sinon, le chacham, il ne parlera pas. Sinon, ce n'est pas un chacham. Je referme cette parenthèse parce qu'on est tellement concerné par ce problème que je vous dis vraiment, Mikol Alev, tafsiku imadvarim a ele. Moi aussi, je pourrais raconter plein de choses sur les uns et les autres, de ce qui se passe dans ce bureau à droite à gauche. Je n'ai jamais parlé de personne, jamais critiqué personne. Et j'espère que Be'ezrat Hashem, Anashim, Yavinu, Yavsiku, qu'avant de juger, d'abord, ils doivent appeler. Ils doivent se renseigner. Ils doivent vérifier. Ve'eve, choker et ha'edim etev, dit la Mishnah, la Maseret Avot. Tu as le devoir de vérifier parfaitement les choses, avec toutes les preuves dans les mains, avant d'eux, et ne pas y compter... La folie des uns et la folie des autres, et la vision et la réception de chacun avec sa sensibilité, sa débilité. On vit dans un monde de fous. Rencontrer un cousin, une cousine, un frère, une sœur, n'importe qui vous dit n'importe quoi, c'est tout de suite vous l'avez condamné. Qui te dit que ton cousin ou ta sœur a la raison? Qui te dit que ton fils ou ta fille a raison? Qui te dit? T'as vérifié? Non. Le roi David à la vache à l'homme. Dans les Midrashim, on dit de lui que chaque fois qu'on disait quelque chose au nom de quelqu'un, il allait avec son cheval jusqu'à la maison, il descendait, il allait le voir, c'était le roi. Pour nous apprendre que dans la vie, il faut vérifier tout ce qu'on entend et ne pas donner de crédit. Chabdeu, respecte tout le monde. Chabdeu. Je finis, écoutez bien. Ulfichach lo haratz lahem kelev leshono. Et en ce jour-là, aucun chien n'a aboyé. Achen ilu adayin ayu ba'ale lashonara. Pourquoi? Parce qu'en ce jour-là de la sortie d'Égypte, les sages nous disent, quel rapport avec les chiens et le lachonara? Vous voyez ce que fait un chien? Quand quelqu'un passe sur le trottoir, écoutez bien comme c'est beau ce que disent les sages. Il aboie. Pourquoi il aboie? Eh, fais gaffe, toi, ne rentre pas dans mon territoire ici, c'est la maison de mon maître. Ouais, mais la personne, elle ne compte pas rentrer. Vous savez quel est le problème des chiens? C'est qu'ils n'ont aucun sechel. Ils ont un instinct animal. Mais ils n'ont pas l'intelligence de distinguer, si ce n'est que leur bêtise d'animal. C'est-à-dire quelqu'un qui passe, quelqu'un qui passe, il va lui courir derrière. Il va vouloir le... La main. Pourquoi t'aboies? Il est juste en train de passer, parce qu'il s'est fait des idées. Et il ouvre sa bouche. Kacha dis Razal. Celui qui fait du lachonara. Oui, comme a dit lui en avis, Zachour l'Etov à propos de Isabel, la femme de Ahav, roi d'Israël, tu seras jeté et dévoré par les chiens. Parce que celui qui fait du lachonara, Razal, pas d'habitude, tout dit, Kolam et sa père lachonara, Raoul et Ashlichol la clavim, mérite d'être mordu par des chiens. Il mérite d'être mordu par des chiens. C'est bidouk ce qui se passe à la fin des temps. Quand la personne décède, Akadosh Baruch Hu fait descendre les clavim, les démons, qui le mordent sans fin pour chaque lachonara qu'il a fait dans ce monde. Vezot ad belidai. Tant que le lachonara persistera sur terre, il n'y aura pas de geoula, ni pratit, ni klalit, ni à l'échelle individuelle, ni à l'échelle générale. Velachen ombrim rabotenu, velachen misupar bamidrash. Kishnem asam chod et shamru ben Israël al sod shel veishalu ish meet rehu, veish lo gilu ou le mitzraim le fiche akru bim kerbam, min ashoresh atarichulu de lachonara fra rehuim ayu le geoula. Et c'est parce que les enfants d'Israël, pendant l'année des 10 plaies d'Égypte, qui a duré une année, ont enfin cessé leur lachonara et leur rapportage, le fait de rapporter, tu ne sais pas qui c'est, tu ne sais pas qui t'a affaire, tu ne sais pas ceci, peut-être que l'ordure c'est toi. Résultat des courses, eh bien nous avons été dignes de la Géoula. Kach mevi Gaon Bezrat Hashem Rabbi Mordechai Bennett, dans son Zecher Tzadik Livracha, dans son commentaire extraordinaire sur ce verset de la Torah. Loi Heratz Kelev Leshono. Comme c'est marqué à propos de Ishayahu, comment c'est marqué là-bas, attendez juste un instant, je vais vous lire quelque chose à propos du fameux Perek Shira. Là-bas, il dit comme ça, voilà, juste un instant. Les chiens, en d'autres termes, sont hautains, chutzpanim, ils sont culottés dans la façon d'agir, car ils n'ont pas de problème, alors que ce sont des animaux d'aboyer après les hommes. Et ils ne seront jamais rassasiés. Iskou l'omar shira. Pourquoi les chiens, donc, posent Rabbi Ishaïa, il pose la question à Kadosh Baruch Hu, il dit, pourquoi les chiens, ils ont le mérite de dire la shira? Ils s'étonnent de tous les animaux? Non, juste du chien. Analo malach min hashamayim, l'ange a répondu du ciel, tu veux savoir? Je vais te dire pourquoi. Yom shigila sodol chabakou kanavi. Lo gila d'abarzel et shumbriya ba'olam. Et là, bishvil shetamido shalalalalalalalalalalalalala. Alors, on a la réponse pourquoi. Vamrou klaviv. Ulchol ben Israël lo yechirat kelev leshono. Parce qu'au niveau du pshat, les chiens n'ont pas aboyé. Réellement, les chiens gardiens des frontières égyptiennes n'ont pas aboyé. Comme les chiens n'ont pas aboyé après les Hébreux, ils auront eu le mérite qu'avec ce qu'ils ont, eh bien, on pourra leur donner le mérite de faire le chant en honneur d'Hachem. Velo od ela shezachu leabed oro mitzvatam shekodvim ba'em tfilin umzuzot v'sefer Torah ve'al ken zachu lomar shira. Donc comme ça nous dit le texte, et pas simplement cela, mais qu'avec les excréments du chien, une fois qu'ils sont secs, on les rend poudre et on peut tanner la peau du Sefer Torah, des mezuzot et des tfilin pour lequel on peut les utiliser. En d'autres termes, vous avez compris que les excréments du chien ont plus de valeur que la sale langue de celui qui fait du lachonara. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Avec les excréments du chien, quand il devient sec, on le rend poudre comme ça, vous avez très fine, et avec ça on peut tanner parfaitement, c'est l'élément le plus précieux pour tanner, pour que la peau de sur laquelle on va écrire les Sefer Torah, les mezuzot, vous vous rendez compte, devienne lisse et parfaite. C'est avec ça qu'on l'utilise. Ouais. Les excréments du chien valent plus que la bouche d'une personne qui a dit des vérités sur l'autre ou rapporté des vérités. Zer Moussa Reskel, de ce verset pour lequel la Torah le met au centre de notre parasha en nous disant « Hey, regarde ce que Dieu a écrit. Kamatishmor et apeshelcha, si tu ne veux pas qu'elle ressemble à celle d'un chien. » Baruch Adonai l'olam amen ve'amen shkenshe lishuad ve'nechamod rabot. Et Bezrat Hashem, j'insiste beaucoup aujourd'hui. Tous les rabbanim parlent de ça en ce moment. On est période des Shovavim. On fait attention à plein de choses dans ce monde. Mais il y a une chose sur laquelle on ne fait pas attention, c'est à notre sale bouche. Je n'y stocke, et surtout pour les autres, l'eau t'écablou. L'eau t'écablou. Qu'on fasse une teshuva sur arrêter de charrier les uns et les autres. Encore ce matin, j'entendais des gens qui se vexent parce qu'ils sont constamment charriés. Ceux qui charrient se trouvent marrants, mais ils ne savent pas combien les autres en ont ras-le-bol. Qu'on arrête de charrier, qu'on arrête de descendre les uns et les autres, qu'on arrête constamment cette haine qu'il y a entre nous. Et si tu as un conflit et que tu penses que tu as raison, alors n'aie pas peur de t'asseoir pour en discuter et faire sortir le Emmet. Et vous verrez que très souvent, toutes ces personnes qui ont accepté ce challenge d'aller chercher la vérité et de fuir leur vérité ont souvent été étonnées des résultats et se sont rendues compte qu'en fin de compte, c'était à eux de prodiguer leurs excuses.